hymne, le petit texte qu'on lit, qu'on a dans le Sat Amazon et dans la Shmoneh Esrei, dans la Amida, on dit et ensuite, après cela, tes enfants sont venus dans ta maison, ou finou et ils ont déblayé ton temple, le tiarou, ils ont purifié ton sanctuaire, viglikou nerot, ils ont allumé des nerot, des lumières, Bechatzrot Kotchecha, dans tes saintes, enfin, dans les cours qui te sont consacrés, dans le Khatser. Vekarou Shmonat Yemei Chanouka, ils ont fixé ces 8 jours de Chanouka et Lou, le Hodot, pour dire de la louange, pour remercier Hachem, pour dire sa louange, etc. Ils en ont fait un Yom Tov. Il y a un Al-Anissim analogue pour Purim, dans lequel on raconte Aman, etc. Mais là-bas, on ne dit pas qu'ils ont fixé le jour de Purim comme Yom Tov. Semble-t-il qu'on a, à Purim, on a seulement besoin de mentionner qu'il y a eu un miracle. Il y a eu le miracle, on était exposé à une solution finale, à Purim et par Aman, et ça n'a pas eu lieu. Hachem nous a sauvés, ça n'a pas eu lieu. Alors qu'ici, on parle bien sûr des miracles qu'il y a eu, mais on dit aussi que Kavu le Yom Tov. On a fixé Hanouka, 8 jours de Hanouka, comme Yom Tov. Donc ça veut dire que quand on a dit qu'on a fixé ces 8 jours de Hanouka, le Hodot, la Lel, ça vient en quelque sorte dans la suite des Nittim et des autres Nittim et des autres Takanot, des autres décisions que les Rabbins, que les Chachamim ont prises. À savoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé, ils sont revenus dans la résidence d'Hachem, ils ont déblayé le temple, on a allumé des nerot, et aussi on a fixé Yom Tov. C'est-à-dire que c'est la même chose, on met ça sur le même plan. La fixation des 8 jours de Hanouka, c'est sur le même plan que d'avoir déblayé, c'est-à-dire ils ont enlevé toutes les idoles, enfin, toute la saleté que les Grecs avaient fait dans le temple de Jérusalem, dans le Beth Amikdash. Alors évidemment, il faut qu'on comprenne bien comment est-ce que ça va ensemble. Oui, d'abord à Purim c'était plus tard, mais on n'a pas fixé Yom Tov. On n'a pas. Ici, on a mentionné le Nes de Purim, mais c'est tout. Dans la Nitti.
Il n'y a pas le Halel à Purim.
Pardon?
Il n'y a pas le Halel à Purim.
C'est autre chose, certains disent que le Halel à Purim c'est la lecture de la Megillah.
La Megillah, oui. Enfin,
bon, c'est autre chose, mais c'est ça le. Le sujet sur lequel on va essayer de dire quelque chose maintenant, c'est ce problème de Yom Tov. Dans le Sefer Daniel, il dit Vaessa Enai, j'ai levé les yeux et j'ai vu un homme, il avait des vêtements spéciaux. Et j'ai vu son corps qui était comme son visage avait été comme un éclair, comme un éclair, ses yeux c'était comme des torches, ses bras et c'était comme du cuivre, ou l'airain. Et moi, j'ai vu ça, hein, j'étais tout seul à avoir cette vision, dit Daniel. Les autres avec moi, ils n'ont rien vu. Et j'ai été épuisé par cette vision, et j'étais sans force. Et tout mon être, en quelque sorte, s'est complètement effondré. Et un peu plus haut, dans ce même sefer de Daniel, Rashi explique que Nechoshet, le cuivre, ça correspond à la graisse. C'est-à-dire l'image dans les métaux, si vous voulez, le cuivre, les reins, correspond à la graisse. C'est ce que Rashi explique. Donc, puisqu'il dit que dans sa vision, il a vu qu'il avait des bras, etc., qui étaient en cuivre, ça veut dire que ce personnage avait à voir avec la graisse. Ce qu'il a vu, dans sa vision, il a vu quelque chose qui était graisse. Et c'est marqué que le hod, la splendeur, la beauté de Daniel est devenue destructrice en quelque sorte. C'est retourné contre lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette royauté grecque, elle s'opposait à toute la notion de hod. Hod, c'est une forme de splendeur, de beauté. Et le Harizal explique que dans la révolte des Hashmonaïm, que Matityahu, il a été metaken le hod, il a réparé le hod. Il y avait un problème avec le hod et il l'a réparé. Donc lui, il a réparé le hod, il a réparé ce qui avait été endommagé. Il dit que tout mon hod s'est retourné contre moi, toute cette splendeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que hod, c'est une certaine façon de gouverner le monde. C'est une certaine façon pour Hachem, si vous voulez, de se dévoiler dans le monde. Hachem se dévoile par les façons dont il gouverne le monde. Il gouverne le monde dans la guerre, il gouverne le monde dans la paix, il gouverne le monde dans l'abondance, etc. Tout ça, c'est les midot, c'est les dévoilements d'Hachem. Donc quand il se dévoile dans le monde, et que c'est sur le mode de ce qu'on appelle le hod, la splendeur, alors, ce que le Harizal est en train de dire, que ça n'a été réparé, donc ça veut dire que ça a été abîmé, et ça n'a été réparé que par Matityahu. Alors, il faut juste réfléchir un tout petit peu. Daniel, il vivait quand? Daniel, il est à la cour de... Non, Daniel, la cour de Nabucodonosor. Nabucco, pour les Nabucco. Donc, il est à la cour, si vous voulez, grossièrement, très grossièrement, c'est autant d'Esther plutôt, autant de Pourim. Et le problème des Grecs, c'est bien plus tard. Parce que à l'époque de Pourim, si vous voulez, on a reconstruit le Beth Amikdash, le deuxième, et puis c'est au milieu de la 200 ans après, en gros 200 ans après, qu'il y a eu l'histoire de Hanouka. Donc, depuis le moment où Daniel dit que le hod s'est effondré, dans cette vision, il a vu tout le hod s'effondrer, le Harizal dit, mais pendant tout ce temps-là, il n'y avait pas eu réparation de ce hod, Il a fallu attendre Hanouka pour que Matityahu répare. Donc si vous voulez, on peut dire en gros la moitié de la durée du deuxième Beit HaMikdash où le Hod n'était pas là. On vivait pas avec le Hod. Ça veut dire Hachem ne se dévoilait pas de cette manière-là. C'est ce qu'on dit quand on dit au sujet de Galout Yavan. Daniel parle de Galout Yavan et il dit Hodo ne parle Mashrit. C'est-à-dire que toute ma beauté s'est changée, s'est transformée et c'est devenu destructeur. Pourquoi? Parce que puisque le sauve, quand on était sauvé des Grecs, c'était un tikkun de la Mida de Hod, ça veut dire que les Grecs s'opposaient à la Mida de Hod, ils ne la laissaient pas s'épanouir. Maintenant, vous devez bien savoir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette Mida de Hod? Et comment est-ce que les choses se sont dévoilées? Cette Mida-là s'est dévoilée grâce au Hashmonaïm, grâce à Matityahu et à ses fils. Donc, vous avez au moment de la vision de Daniel, c'est-à-dire à la cour de Nabucodonosor, si vous voulez, en gros, il s'aperçoit que le Hod, il a une vision, le Hod va être détruit. Et le Hod s'est retourné contre lui, c'est comme si toute la beauté du monde en fait se retournait contre lui. Le Hod, le Beit HaMikdash, tout ça se retourne contre lui. Donc ça tombe, ça s'effondre, c'est cassé. Tout. Et ça dure tout le temps, y compris après la construction du deuxième Beit HaMikdash, tout le temps jusqu'à cette période justement où continue, où les Grecs prennent de plus en plus d'ampleur de pouvoir, et jusqu'au moment où les Hashmonaïm se révoltent et où il y a le Nes de Hanouka. La Rizal dit encore que quand Yaakov s'est battu avec l'ange des saints et que l'ange l'a touché à la hanche. La Kavana, qu'est-ce que ça veut dire? La Rida dit que ça veut dire que l'ange, il a touché la Mida de Hod. Il a touché le Hod de Yaakov. Et c'est pour ça qu'on a été Metaken, qu'on a instauré ces 8 jours, le Hodot, pour exprimer sa reconnaissance. Le Hod, c'est la 8e Mida. D'accord? Dans les Midot, le Hod, dans les Sirot, si vous voulez. C'est la 8e Sira. La Rida a en quelque sorte dévoilé ici que le malar, l'ange de Sable, il a touché Yaakov au niveau des réglages, au niveau des jambes en quelque sorte, au niveau de la mobilité de Yaakov. En touchant la hanche, il l'a blessé. Il a empêché de disposer de la totalité de ses moyens à ce niveau-là. Et il y a deux jambes, évidemment. Donc quand on dit qu'il l'a touché à l'ange, on l'a touché des deux côtés, a priori. Et le tikkun, la réparation de ces deux jambes, la réparation a eu lieu pour l'une à Purim, c'est pour l'autre à Hanouka. Donc, d'après le Harizal, la réparation du coup qu'a subi par l'ange des sables Yaakov, Cette préparation, elle a attendu jusqu'à Pourim et Hanouka, si vous voulez, sans entrer pour l'instant dans les détails, jusqu'au moment où les Chachamim ont inventé deux mitzvot des Rabbanan. Ils ont ajouté deux mitzvot, Kriyat Hamegila d'une part, et Hanouka d'autre part. La Mida de Netzar, le couple de Sirot, c'est Netzar et Oz. Le Netzar a été réparé à Pourim, et puis quelques centaines d'années plus tard, la Mida de Oz, elle a été réparée par Matityahu à Hanouka. Et il va essayer d'expliquer un peu plus.
C'est quoi Netzar?
Netzar, c'est l'éternité. Netzar, l'éternité.
Ah, l'éternité.
Netzar Israël, c'est l'éternité d'Israël. Alors, que ce soit bien clair, en vérité, la forme humaine, elle correspond à une forme spirituelle dans le monde supérieur. Et Akadosh Baruch Hu se dévoile dans le monde avec cette forme humaine. Ce qui veut dire, comme c'est marqué dans le passage des Ézéchiel, dans la vision des Ézéchiel, il dit Val Hakise Kidmut Mare Adam Milmala. Sur le trône, j'ai vu qu'il y avait une forme qui ressemblait à une forme humaine d'en haut. Ça veut dire le fait qu'il y ait, que nous ayons, nous, êtres humains, une tête, des mains, des bras, des jambes, c'est parce que parce que Akadosh Baruch Hu se révèle dans sa façon de gouverner le monde, si on peut parler comme ça, avec des actions, ou par des actions, qui correspondent aux différents membres du corps humain. Hachem se révèle, si vous voulez, en agissant dans le monde, et on va dire, il y a certains types d'actions d'Hachem qui s'appellent la main d'Hachem. Dans le Moré de Bouchim, Rambam, il a consacré quasiment un chapitre par membre, en quelque sorte, pour dire qu'est-ce que ça veut dire la tête d'Hachem, qu'est-ce que ça veut dire la main d'Hachem, etc. Il explique ce que ça veut dire. Alors, c'est ça qu'on veut dire. Quand on dit que Hachem se dévoile avec une forme humaine, ça ne veut pas, Chas v'Shalom, dire que Hachem a une forme ou une image, etc. On sait bien que c'est un des fondements de notre émouna, qu'Hachem n'a pas de corps, qu'il n'a pas de forme quelconque. La kavana, c'est sa façon d'agir dans le monde. On peut qualifier son action dans le monde par Yadaim, par Aglaim, par le Roche, par etc. Dans les Midot qui se dévoilent dans le monde, Midot Hashem, comme on a dit, donc elles correspondent aux différents membres de la forme humaine. Et il y a deux Midot qui correspondent aux deux jambes de la forme humaine qui s'appellent Netzar et Hod. C'est juste pour que ça soit clair. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de ça de cette manière-là? Un yan, donc, si on essaie de dire à ce niveau, notre niveau un peu, la fonction des gens, c'est de permettre à l'homme d'aller d'un endroit à l'autre. Il va de l'endroit où il se tient à un autre endroit où il a envie de se tenir. Mais le but pas le mouvement lui-même, le tachlit, pas plus que les mains, que les bras. C'est simplement que grâce aux jambes, il peut aller et il peut se déplacer et aller ailleurs, se tenir en un autre endroit. Ça, c'est la forme des jambes de l'homme dans le monde d'en bas. Et Béhémeth, la racine de cela, c'est que dans l'intériorité des choses, si on peut parler comme ça, ben c'est exactement de la même manière. La puissance de ce qu'on appelle raglaïm le mala, des jambes dans la forme humaine, enfin la forme, oui, Adam, dans le monde d'en haut, c'est effectivement là aussi, c'est quoi ? C'est de permettre à tous les dévoilements, à toute la volonté d'Hachem, d'aller d'un endroit à l'autre. Or, c'est le but du monde, en fait, le but de la création, puisque la volonté divine a été, si on peut parler comme ça, de dévoiler dans le monde, dans ce monde-ci, la lumière d'en haut. Hachem, on nous envoie la lumière, il se dévoile, et les transporteurs de cette lumière dans le monde d'en bas, ce qui amène ce sont les raglaïm d'en haut, ce sont eux, c'est-à-dire en fait ces deux midot là de Netzach et Oz qui permettent cette descente de la lumière que Hachem nous envoie pour qu'elle arrive jusqu'à nous. Ramchal et d'autres commentaires expliquent ça de la manière suivante. Ils disent, Olam Hazeh, notre monde, c'est un monde dans lequel manque, en quelque sorte, la lumière supérieure. Il nous manque dans ce monde la lumière supérieure. Donc certes, notre monde est un monde obscur. Et c'est parce que ce monde est obscur que les forces du mal peuvent s'y développer, peuvent prendre le pouvoir. La kavana de toute la création, l'intention de la création, c'est que par le travail de l'homme, par ses choix, par le fait qu'il va choisir de faire le bien, ces lumières vont se dévoiler ici aussi, bien qu'en réalité, on en soit très loin. Donc, on voit très bien que le but de l'exercice, c'est d'amener cette lumière à un autre endroit. Hein, donc, cette lumière se trouve en haut, dans les mondes supérieurs, et le but de l'exercice, c'est d'amener ces lumières dans un endroit où elles ne s'y trouvent pas, elles ne se trouvaient pas. Et cette puissance, cette capacité d'amener cette lumière dans cet endroit-là, c'est Raglaï, ce sont les gens. Elles ont pour but d'amener l'homme Chutz Limkomo. C'est-à-dire, en quelque sorte, il faut sortir l'homme de l'endroit où il est, c'est-à-dire de ce monde obscur, et le mettre dans la lumière. De telle sorte que même dans ces endroits obscurs, il y ait la lumière puisse venir. C'est ce qu'on dit ici, Hashamayim Kisti Ve'aretz Adom Raglo. Les cieux sont mon trône, et la terre, c'est le repose-pied, c'est-à-dire Olam Hazeh, c'est un endroit, c'est l'endroit de Raglav, c'est l'endroit des pieds, si on peut parler comme ça, de cette forme humaine. Et quand on dit, et la lumière qui est en haut, c'est Hashamayim Kisti, les cieux sont mon trône, Donc cette lumière-là, cette lumière qu'on appelle Hashamayim ici, elle descend sur la terre, alors que cette terre jusque-là n'avait pas de lumière. Et pas seulement ça, mais les raglaïm sont la part inférieure de ce corps humain, de ce corps à forme, de cette forme humaine. C'est-à-dire, c'est parce que le vu de ces raglaïm dans la forme, c'est-à-dire dans la forme d'en haut, c'est d'aller d'un endroit qui est justement situé très haut, vers un endroit qui est beaucoup plus bas. Ils vont descendre dans Olam Hazeh. C'est-à-dire dans ce monde dont on a dit plus haut qu'il était un monde obscur, un monde extrêmement matériel, où les lumières spirituelles d'en haut ont du mal, ne s'y trouvent pas s'il n'y a pas quelque chose qui va les y amener, les transporter. Et là-bas, quand la lumière arrive, elle va pouvoir dévoiler les parties les plus élevées, justement, de cette forme humaine. Et ça forme un tout, n'est-ce pas? Donc, c'est pas les gens ne vont pas se balader toutes seules. Si elles se baladent, elles amènent aussi la partie supérieure avec elles. Donc, quand elles arrivent dans le monde d'en bas, elles amènent aussi la partie supérieure de la forme en question. De la même manière que dans la forme, dans l'être humain, les jambes transportent la partie haute du corps d'un endroit à l'autre. De la même manière, dans la forme humaine d'en haut, bon, quand je dis forme humaine, c'est une espèce d'organisation qui fait que Hachem se dévoile de cette manière-là. Sous une forme humaine, à Kadosh Baruch Hu, si on peut parler comme ça, il se dévoile avec cette lumière infinie qui est la sienne, et c'est ça la partie supérieure de la forme humaine, c'est la lumière infinie. Et la sagesse divine a décidé que ça allait descendre. Cette lumière, elle va descendre jusque dans les jambes en question. Or, ces jambes sont dans Olam Hazeh. Les jambes, la partie basse de la construction. Alors, d'après ça, il faut comprendre que quand l'ange a touché Yaakov à la hanche, ça veut dire que l'ange a endommagé cette force-là qui fait que les midot du haut ne vont pas pouvoir se dévoiler complètement dans ce monde-ci. Et là, par conséquent, l'obscurité du matériel va devenir de plus en plus forte, au point que les gens deviennent incapables d'amener la lumière d'en haut dans cette obscurité. L'obscurité est tellement épaisse qu'elle ne peut pas être pénétrée par la lumière. Et c'est ce qu'on dit quand on dit que Yaakov, après ça, ou Tzolea à l'Irifo, il boitait. Alors que ça ne marche pas bien, quoi. Et les Rishonim ont amené cet enseignement de Chazal que ça correspond, ce moment où il a fait trembler, qui a déboîté un peu la hanche, ça correspond à ce que Chazal appelle Shat Hashmad, c'est-à-dire des moments où les juifs se sont convertis, si on veut, où ils ont adhéré à des idées étrangères. Par exemple, quand ils se sont laissés convaincre par les idées, les valeurs grecques. C'est Schmatt. Ce sont donc quelqu'un qui se convertirait aujourd'hui à n'importe quel bouddhisme ou au christianisme, ce que vous voudrez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il a fait, cet ange, ce qu'il a causé comme dommage, c'est que il y a un pouvoir du mal sur le taupe. Au point que il se peut que les rechaïm, les gens qui sont des rechaïm, les gens qui nient les valeurs essentielles, prennent le pouvoir sur Israël, sur les autres, sur les juifs. Alors ce qui est arrivé, cette pégia, cette plaie, enfin cette blessure dans la façon de Jacob de se mouvoir, concrètement, elle était là depuis la lutte de Jacob avec l'ange. Concrètement, elle s'est actualisée, si vous voulez, lorsque le règne du corps et le règne de la kfira, donc la négation des valeurs essentielles, sont devenus tellement puissants dans le monde, au point que la lumière d'Hachem ne se voyait plus du tout dans le monde d'en bas. Et maintenant, on peut comprendre que c'était justement le gab, le défaut que ça a mis dans la Mida de Hod, qui est une des deux jambes. La Mida de Hod, il faut l'entendre comme ce que veut dire le mot Hod, ça veut dire que tout le monde reconnaît à Kol Modim Elav. Ça voudrait dire que la gloire d'Hachem est telle, la beauté, etc. est telle, que tout le monde le reconnaît et que tout le monde vit en harmonie complète avec la façon dont il gouverne le monde. Mais il y a encore un autre sujet qui est ce sujet de la hodaa, de la reconnaissance. Le Gaon explique que dans la Mida de Hod, il y a cette conduite du monde par Hachem, où Hachem se dévoile comme si il reconnaissait le pouvoir de Hachem. Comme si, voilà, vous avez droit au pouvoir. Et donc, il gouverne son monde sur le mode de shtika v'oda, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est modeste, c'est-à-dire qu'on dit qu'il ne dit mot qu'on sent, il le reconnaît, il se tait et il laisse faire. Donc quand il laisse faire, ça apparaît comme s'il en est, il est d'accord. Il est d'accord avec les Rechaïm qui sont au pouvoir. Donc, comme si en fait, ce que ces Rechaïm font, ben, c'était bien. Et effectivement, ils réussissent. Ça marche, ils ont le vent en poupe. Ça, c'est une anaga, une façon de gouverner le monde, qui se dit, avec le verset qui dit, Micha mocha ba'ilim. Il y a une dracha, Micha mocha ba'ilmim, qui est comme toi, parmi ceux qui se taisent, qui font comme s'ils étaient muets. Hein, Ilel, c'est un muet. Bah, Ilmim, il dit pas. Bah, Elim, la dracha, c'est, je voudrais dire, parmi les puissants, et parmi ceux qui se taisent. C'est-à-dire, c'est comme si Hachem reconnaissait, leur reconnaissait des droits, comme s'ils reconnaissez que oui, c'est normal que vous gouverniez, que vous soyez au pouvoir. C'est pour ça qu'il ne leur manque rien. Et ils sont dans dans une situation où, comme dit David Amer, puis croire que Shaïm, Moïse, et ainsi de suite, pas la reine, c'est-à-dire que les Rechaïm, ils se répandent comme l'herbe, comme la mauvaise herbe.
Je ne sais pas vous le kiffez,
mais.
Qui sont les sophistes?
Les?
Et
mimes. Ils miment. On a seulement dit, ils miment, c'est ceux qui sont muets, que Hachem se met parmi les muets, comme s'il était muet. Les muets, eux, ils ne parlent pas parce qu'ils ne peuvent pas. Hachem, il pourrait parler et il se met parmi eux et il est plus muet qu'eux. Parce qu'eux, ils parlent la langue des signes, ils parlent de ce qu'ils peuvent. Et lui, Hachem, il ne bouge pas, il laisse faire. Et donc on a l'impression qu'il est d'accord avec ce qui se fait. Il est donc d'accord avec ce que font les Rechaïm. Il leur concède le droit de faire ce qu'ils font. Donc comme si, donc un certain jour, enfin pas comme si, donc un certain jour, si vous voulez, en les laissant faire, en leur même les laissant réussir, en vérité, ce que reçoivent les Rechaïm de bien, de bonté dans ce monde-ci, il faut l'entendre que c'est sur le principe de Meshalem, El Sonav Al Panav La Avido, c'est-à-dire qu'en fait, Hachem paye à son ennemi ou à ses ennemis. Et pourquoi ils leur payent? Ils leur payent dans ce monde-ci pour ne rien avoir à leur payer dans Olam Haba. Ils reçoivent dans ce monde-ci, mais par rapport à ce qu'on reçoit dans Olam Haba, ce qu'on reçoit dans ce monde-ci, c'est de la monnaie de singe. Parce qu'il n'y a pas d'éternité dans ce monde-ci. Tandis que là-bas, dans Olam Haba, c'est même ce qu'on reçoit, bon, d'abord c'est d'une autre qualité et tout, mais en plus c'est éternel. Donc à l'idée des maîtres, en vérité, il n'y a pas d'Oda'a de la part de Hachem. Puisque si on connaît les choses, alors on se rend compte que c'est là la plus grande punition qu'on peut donner à quelqu'un, de lui donner. Ça n'existe pas des gens qui n'ont pas fait de mitzvot. Tout le monde fait des mitzvot, même sans le faire exprès. Hachem, il paye un salaire pour toutes les mitzvot qui ont été faites. Seulement les Rechaïm, au Rechaïm, ils payent dans ce monde-ci. De telle sorte qu'il n'est plus rien, plus de droit à faire valoir dans Olam Haba. Donc c'est un onesh terrible. C'est une punition terrible. Donc on comprend ici que la mida de Hod, qui donne Hoda'a aussi, c'est nié, elle se dévoile de deux manières. Premièrement, de façon ouverte, c'est-à-dire, voilà, on reconnaît qu'Hachem, c'est la vérité. Mais il y a une deuxième façon, dans cette mida de Hod, de se dévoiler. Et c'est seulement dans cette deuxième façon que le Hod se dévoile dans toute sa grandeur. C'est qu'Akadosh Baruch Hu cache sa lumière. Et il se dévoile comme si la Hanaga, la direction du monde, elle coïncidait avec les actions des Rechaïm, comme si en fait, c'est ce que les Rechaïm font, c'est ce que Hachem veut qu'ils fassent. Qu'il ou comme si la matérialité de ce monde et son obscurité avait vraiment un pouvoir dans le monde. Et la raison, c'est parce qu'Hachem se dévoile comme s'il était d'accord avec eux, comme s'il était modé comme s'ils leur reconnaissaient le droit de faire ce qu'ils font. Mais tout ça, c'est seulement afin que même le Hester Panim, le Helem, c'est-à-dire le visage caché et le fait d'être en soi caché, Helem caché, en vérité, ça n'est que une façon d'être modé à Hachem, et pas que lui soit modé à Hachem ou Shaïm, mais c'est une façon où nous sommes en train de reconnaître son pouvoir, puisque on ne peut rien y faire, les Rechaïms ne peuvent rien y faire, ils sont payés dans ce monde-ci. Ils voudraient bien ne pas être payés dans ce monde-ci. Ils savent bien que être payé dans ce monde-ci, c'est en fait être payé en héritage, puisque ça veut dire que tu n'auras rien dans le monde où ça. Dans le monde qui est fait pour la jouissance, tu n'auras rien. Il m'allait à Anaga. S'il n'y avait pas eu cette façon où Hachem se montre comme s'il était d'accord avec le Rechaïm, alors on ne pourrait pas dévoiler tout, que tout en fait appartient à Hachem, tout est battel par rapport à Hachem, même maintenant. Ici, il y a un guilou, il y a un dévoilement de la Midat de Hod jusqu'au bout. Parce que même quand c'est les lois naturelles qui sont au pouvoir, ça n'est qu'une Hoda'a et un Bitul Gamour et le fait de s'écraser complètement devant Hachem. Et d'après ça, le Gam dans la Midat de Hod, le défaut, la blessure qu'il a mise, Beshat Hashmad, elle se manifeste au moment où les Juifs abandonnent la Torah et ils deviennent, comme ils le sont devenus, athées, si vous voulez, ou marxistes, ou ce qu'ils sont devenus, n'importe quoi. Ça a l'air de se présenter comme si Hachem, encore une fois, était d'accord. Et effectivement, les ténèbres recouvrent la terre. Et les Rechaïm prennent des décrets anti-juifs. Et dans cette situation-là, on ne voit pas la vraie lumière. Donc, on ne voit pas qu'elle puisse résider ici. On ne voit pas. Où elle réside, où est la vérité, où est cette lumière de vérité. Donc les raglaïm, les jambes de Adam d'en haut, n'arrivent pas jusqu'en bas. Mais c'est évidemment, vous avez bien compris que toutes ces descriptions du pouvoir de Hachem, c'est le pouvoir des Yévanim, le pouvoir des Grecs à ce moment-là. Seulement, cette victoire des Grecs, dans cette situation-là, où Hachem se cache, ne se montre pas, ça c'est seulement grâce au Giloui de Hashmonaïm, dans l'obscurité, que même dans cette obscurité-là, on verra qu'il s'agit d'une Hoda'a, et là, c'est aussi une façon de le reconnaître, de reconnaître Hachem. Si on regarde d'un peu plus près ce qu'il dit là, c'est que cette mida, mesure de Hod, qui est dévoilée, qui est simple, dans son sens de la cour simple, elle est là toute seule, je veux dire, elle oblige tout le monde à s'annihiler devant Hachem. Et d'aucune manière, on peut s'opposer à cette lumière de Kadosh Baruch Hu. Et quand la lumière, quand la mida de Hod est redevenue dans son état normal, Alors le plan Israël, quand elle était dans son état normal, le plan Israël avait la nevoie, il avait la prophétie. La Malchut Bezavi était sur le trône. Mais quand la nevoie a cessé, alors, à ce moment-là, la nevoie termine, commence à ce moment-là l'ascension d'Alexandre de Macédoine, Alexandre le Grand. C'est marqué effectivement dans l'introduction à Gemara de Rabbeinu Nissim Gaon. Il dit que chez Malach Alexandros, Nifseka ne voit mi frère. Lorsque Alexandre a régné, à ce moment-là, il n'y avait plus de prophétie en Israël. Donc, quand les Bnei Israël viennent et disent que la Grèce, elle a amené l'obscurité dans le monde, c'est la fameuse drasha de Choshech al pnei tehom, c'est Yavan, c'est le midrash sur le récit. On parle de quoi? On parle de la fin de la nevoie, où la parole divine, en quelque sorte, ne retentit plus dans le plan Israël. Et à ce moment-là, commence la montée de l'hérésie, en fait, pour nous, des Grecs, l'idolâtrie grecque, la négation des valeurs de Torah. Alors, quand je dis valeurs de Torah, c'est parce que ce qui était important, c'est l'impact que ça a eu sur les Bnei Israël. Bon, il ne faut pas oublier, on l'a vu toutes les années, mais cette guerre contre les Grecs, il n'y avait pas de Grecs là-bas, quasiment pas. C'est les Syro-Grecs d'abord, et surtout la guerre, elle était contre l'establishment qui était acquis aux idées grecques. Et les Kohen Gadol de l'époque, il a changé son nom pour un nom grec, il pratiquait des sacrifices comme les Grecs. Tout était devenu à la grecque. C'était très fort, très puissant cet attrait de la Grèce. Et donc, il y a une science qui s'est développée, de la nature, si vous voulez, qui expliquait le monde, en disant, ben voilà, le monde, il obéit à ces lois-là. Et il n'y a pas d'autre chorma, il n'y a pas d'autre sagesse qui serait supérieure à la nôtre, celle des Grecs. À ce moment-là, comme Hachem les laisse faire, Hachem se tait, et on sait bien que je dis pas au dard, on sait que quand on se tait, qui ne dit mot qu'on sent. C'est un aveu. Et tout ça, c'est seulement pour que finalement, en profondeur, se dévoile que même dans cette situation-là, il y a Malchut, la Milchama et Malchut, il y a la guerre, il y a la royauté, et Israël peut dominer la Grèce, même sans prophète, et sans tous les processus qui existaient avant de faire la guerre, au temps des prophètes, où on consultait Urim et Thummim, on avait une espèce de ligne directe avec Hachem qui disait il faut faire la guerre, il ne faut pas la faire, ou comment il faut la faire, etc. Aujourd'hui, à ce moment-là, aujourd'hui aussi bien sûr, mais à ce moment-là, il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus cette ligne directe, et il faut montrer qu'on peut quand même faire la guerre, et on peut quand même réinstaurer la royauté juive. Cette force-là, qui fait que même dans l'obscurité, la lumière d'Hachem se dévoile, ça c'est le dévoilement le plus profond qui soit de cette mida de Hod. Ça montre que le Hod, cette mida, elle est là. Même si elle était cachée, on ne voyait rien du tout, maintenant tout à coup elle se manifeste, elle est là. Les Hashmonaïm ont dévoilé qu'en vérité, il n'y a jamais eu de Shtika Keoda. Hashem n'a jamais été silencieux parce qu'il était d'accord avec eux. Mais il faut reconnaître que conduire le monde de façon naturelle, c'est un processus dans lequel il y a aussi la lumière. C'est pas qu'il y a d'un côté la nature qui est hors lumière divine, et puis il y a la Torah, la non. La nature, c'est aussi une décision de soi. Dans les deux cas, ce qui se passe, c'est il se passe ce qu'Hachem veut qu'il se passe. Même là, la lumière d'en haut, la lumière supérieure, a sa place, elle est à sa place. La nature n'est pas coupée de cette lumière du tout. Donc cette lumière est cachée, néanmoins elle trouve son chemin dans un monde qui a l'air de se conduire de façon naturelle, de façon cosmique. Exactement comme cette lumière était perceptible au temps de la prophétie. Maintenant, on peut comprendre pourquoi ils ont été metaken, pourquoi ils ont instauré les jours de Hanouka, le Hodot, pour reconnaître, exprimer sa reconnaissance. Shahodaa imamash inyano shelyom. Parce que l'opération de reconnaissance, c'est la mitzvah du jour, en quelque sorte. Qu'est-ce que c'est Hanouka? Ben c'est le jour où il faut exprimer sa reconnaissance. Puisque, à ce moment-là, Matityahu a été metaken l'amida de Hod. Il a réparé l'amida de Hod. Et il a montré que toute la création naturelle, tout ce qui se passe dans le monde, Gamken Modela, elle aussi, elle reconnaît Hachem. Et de cette manière-là, ils ont vaincu les Grecs, la royauté grecque. C'est pour ça que la Malchoute est revenue dans le clan d'Israël, et les Juifs ont de nouveau été gouvernés par des rois, plus de 200 ans, comme dit le Rambam. Ça, c'est en profondeur le pourquoi les Chachamim avaient cette force d'instaurer Yom Tov. Parce que si on y réfléchit, normalement on ne peut pas instaurer Yom Tov si ce n'est par prophétie. Les prophètes qui sont branchés sur Hachem en quelque sorte, eux ils peuvent, mais les Chachamim là, ils n'étaient pas branchés cette année-là. Pourquoi? Parce que Yom Tov, ça doit s'enraciner dans le monde d'en haut. Faire un Yom Tov, ça va faire un 1er mai, je veux dire, C'est la raison pour laquelle Yom Tov est appelé Moed. C'est-à-dire, c'est un moment où Hachem se rend présent. On pourrait traduire, c'est un rendez-vous avec Hachem. Mais pour qu'il rendez-vous avec Hachem, il faut que Hachem soit d'accord. Kol Moed, toute fête s'appelle Moed, le Moedim, c'est un temps de liaison avec Hachem, un moment où on est particulièrement lié avec Hachem. Et donc à ce moment-là, on peut appeler ça Yom Tov. Al-Maha, dans Shabbat, elle dit, mais comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu dis? Tu vas allumer les lampes de Hanouka. Et qui va dire Cher Kidushanu Mitzvotam et Sivanu Ladik Ner Chanukah. Mais où est-ce qu'il t'a donné cet ordre? Cher Kidushanu qui les a sanctifiés et nous a ordonné d'allumer. T'as vu un ordre pareil dans la Torah? Moi, il demande Echan Sivanu. Où est-ce qu'il nous a ordonné? Al-Mal répond Il nous l'a ordonné parce qu'elle a écrit, en même temps, il a écrit L'otasur, tu ne dévieras pas de ce que te disent les chachamim. Et donc, tout ce que te disent les chachamim, ça a une source dans la Torah qui parle. La différence entre, entre une mitzvah comme celle de Hanouka ou Purim et la mitzvah de Tia Shofar, c'est les deux une source dans la Torah, alors c'est les mêmes. Pourquoi il y en a une qui est de Rabbanan, l'autre qui est Mina Torah? Parce que dans le chauffard, la Torah, elle a dit, je veux que tu sonnes du chauffard. Et tu écoutes le chauffard. Dans Pourri, par exemple, la Torah, elle n'a pas dit, je veux que tu fasses Pourri. Elle a dit, je veux que tu écoutes les Rabbanan. Qu'est-ce que vont dire Rabbanan? Ben, ils vont dire d'autres choses. Ils vont dire Hanouka, ils vont dire Pourri, ils vont dire de Tilat Yadaim, etc. Ils vont dire toutes sortes de choses. Et donc, ça veut dire, la chose n'est pas écrite elle-même dans la Torah, mais tu dois obéir parce que dans la Torah, c'est dit que tu dois obéir. Mais ça veut dire, en réalité, si on peut parler comme ça, c'est que si quelqu'un transgresse ses mitzvot de Rabbanan, il transgresse toujours la même mitzvah, mais la Torah. S'il ne fait pas Hanouka, ben il transgresse la mitzvah de quoi? L'otasso. Tu ne déviras pas de ce que disait Rabbanan. S'il transgresse la mitzvah pour les mitzvot de Purim, qu'est-ce qu'il transgresse? Donc, toujours la même, l'otasso. Par contre, si quelqu'un transgresse la mitzvah de Sol et le Chauffard, il a transgressé la mitzvah de Sol et le Chauffard. S'il transgresse la mitzvah de Loulav, il a transgressé la mitzvah de Skoé de Loulav. C'est pas du tout les mêmes. C'est pas dans le Rabbanan, tu transgresses toujours la même chose. À savoir, tu n'as pas obéi à ce que les enfants ont dit.
C'est
où
ça, le fait de...
Dans le Paris, c'est la Torah.
Dans le Paris,
c'est dans le Paris.
Et est-ce qu'il y a une valeur... je ne comprends pas très bien le fait que ce soit, je comprends très bien les gagnants, c'est la même pour les Rabbanan, c'est différent pour eux, mais quelle est une valeur différente, le fait que ce soit la même et différente?
Ça ne change rien. Ça ne change rien, je veux juste expliquer qu'en fait, il y a plusieurs façons de transgresser le lotassour, on peut transgresser, plus les chachamim disent de faire des choses, plus ils augmentent les façons qu'on a de transgresser toujours ce même interdit de dévier de ce que les chachamim te disent.
C'est qui les chachamim?
C'est moi.